Bonjour Alexis.
Bonjour.
Ouais. Donc on va parler bande dessinée maintenant avec Alexis Santenac qui est dessinateur de la série Siberia 56 dont deux volumes sont parus. Alors Alexis, moi je voudrais qu'en un premier temps tu nous expliques comment tu es tombé dans la marmite BD finalement quand tu étais jeune.
La marmite BD, BD.
Ouais.
La marmite BD, c'est pas la
la marmite BD, ouais, s'il te plaît.
Assez jeune en fait, et mon souvenir frappant c'est le cadeau d'un oncle à 11 ans qui m'a offert un bric-à-brac écrit par Gottlieb.
Ouais.
Et j'ai tout de suite lu, j'ai terminé, j'ai dit putain on peut faire ça dans la vie et il faut que je le fasse.
Ah ok,
voilà. Là, j'ai pris un marqueur, j'ai dessiné un peu tous les personnages de Philippe Glacial sur les murs de ma chambre, en fait c'était blanc. J'ai dit papa voilà ma nouvelle déco. Bon bah ok, et puis à partir de là je me suis vraiment penché sur la question.
Donc t'es parti dans la BD avec Philippe Glacial, mais quel personnage
j'ai lu de la BD plus tôt avec des Strange, avec des Fumetti, des trucs comme ça là, qu'on avait pour 10 balles à l'époque dans un sachet plastique avec plein dedans. Mais le vrai déclic de dire voilà je veux faire ça dans la vie, ça a été ça.
Ouais. Donc tu t'es intéressé d'abord à une BD qui était plutôt une BD d'humour finalement.
Ah complètement, mes premières influences c'est Philippe Glacial, c'est Gaston Lagaffe.
Ah mais quand tu sais.
Ah, ouais.
Ah bah quoi, c'est super parce que finalement.
Tintin m'a influencé un petit peu aussi, mais beaucoup moins parce que je lisais un petit peu plus tard. Mais déjà à l'époque, en fait, je trouvais qu'un héros qui n'avait jamais pissé, c'était pas qu'un.
D'accord.
Ça ne parlait pas assez en fait.
Ouais, ouais,
il était pas bien qu'un adulte, lui, on n'était pas duré, qui était beaucoup plus proche de nous. Mais autant j'adorais les aventures elles-mêmes, autant le personnage ne posait pas. Par contre, Gaston, qui était bourré de défauts, de paresse, Astérix, Obélix, beaucoup de bois, et tout ça me parlait beaucoup plus.
Ah, tu vois, ouais, les personnages qui sont un peu en marge de la société t'intéressent plus finalement.
Ouais, ouais, bah, ouais, bah, ouais, l'humain n'est pas parfait. Le personnage folie, c'est quand même. Ouais.
Donc, bah, si à 11 ans tu décides que tu vas faire de la bande dessinée, comment tu t'y prends? À part dessiner, voilà, à part remplir les murs. Hein.
Ça reste assez ludique, ça reste assez ludique sur le début. C'est un peu voilà, des petits gags, des dessins de tous les jours. J'étais pas mal influencé par Reiser aussi. D'ailleurs, je me rappelle que j'aimais bien ce côté hyper énergique. Il y avait trois traits, ça ressemblait pas à grand chose, mais tout était raconté déjà.
Ah ouais, c'était hyper efficace. Hein.
Voilà, et ça c'était assez fabuleux. Et après, j'ai commencé à envisager en disant voilà, s'il faut travailler, c'est venu, je devais être en 4e ou en 3e, donc je vais à 13 ans par là, comme ça, 13-14 ans, et un peu des stages. Alors voilà, faire un stage professionnel dans une boîte, bon, c'est super, mais enfin, je peux faire un stage de BD, et puis j'avais quand même déjà la notion de dire que la BD c'est bien, mais c'est peut-être pas non plus le succès assuré au premier bouquin, quoi. Donc pour en vivre décemment, est-ce que ça vaut le coup? Je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver un métier où je ne vais pas m'emmerder, qui va quand même me plaire, et je me suis orienté vers la publicité. Je me suis dit, je vais être graphiste, je vais être BA en agence si je peux, et tout ça. Donc là, j'ai parlé de ça. Là-dessus, mon père me dit, bah, écoute, ça c'est le hasard de la vie, mais je ne savais pas du tout, mais mon père me dit, écoute, ça tombe très bien, tu vas faire ton stage chez mon cousin, qui est en fait le mec qui a fait les pubs de Cachou des Jaunis. Super,
je sais pas si ça parle encore
du grand. La jeunesse, ça va peut-être pas trop parler aux jeunes, mais voilà là. Donc, bon, au passage, j'ai vu les photos des castings, hein, c'était super. Mais donc, j'ai pu faire ça, j'ai vu que c'était une branche qui me plaisait très beaucoup, quoi. Et je me suis dit, ok, je vais faire ça, et puis en parallèle, je travaille le dessin, et si je peux faire de la BD, dès que j'ai l'occasion, je commence. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que j'ai été graphiste pendant 10 ans. Dès que j'ai fini mes études, je suis rentré le soir à la maison. Moi, j'étais déjà en couple avec ma femme. Moi, j'avais rien à faire, plus de devoirs, tout ça. Je me dis, là, voilà, je peux bosser le dessin. Après, je me suis mis à faire des pages, quelques concours. Et c'est parti comme ça. Et après, ben, je suis parti sur les festivals avec mon carton sous le bras pour rencontrer les auteurs.
Donc, et tes premiers projets, tu es parti dans quel univers? Tu es resté dans l'univers un peu humoristique?
Ah non, par contre, si le tout premier projet c'est resté humoristique, c'est d'ailleurs le personnage que je suis toujours et il est dans chacun de mes albums, d'ailleurs, quelque part en petit. quand on le connaît, on peut le trouver.
Ok, on va le chercher tout à l'heure.
Voilà. Et il est aussi dans les albums de Brice Cossu avec qui je partage l'atelier, parce que c'est un peu le défi. En fait, dans chaque album, on doit le mêler, donc c'est un petit personnage rigolo.
Un peu à la manière de la coccinelle de Gottlieb.
Ouais, voilà. Il s'appelle Hervé.
Il s'appelle Hervé, d'accord.
Et après, je ciblais un petit peu entre des trucs que. Alors, tout ce qui était comique, je faisais seul. C'est-à-dire, je faisais moi les idées, les scénarios, le dessin, tout. Et puis, à force de fréquenter les auteurs, donc j'ai eu un travail d'équipe aussi. Et là, je suis parti au travers des rencontres, notamment Jean-Luc Guistin.
C'est un scénariste qui est vraiment très prolifique.
Il m'a mis en contact. Et là, j'ai commencé à monter les vrais premiers projets BD en vue d'éditorial.
En vue de publication. En vue de publication, ouais. Mais alors, tu as fait du fanzina, des choses comme ça
ou... J'ai fait du fanzine avec ce fameux personnage Hervé. Il existe dans un temps fanzine. Et ça me permettait déjà de trouver un petit peu l'ambiance avec les autres fanzines, l'ambiance dessin, tout ça. Et surtout d'avoir un stand sur les festivals et donc de rencontrer les auteurs, mais pas en dédicace. Parce que enfin, moi, j'ai jamais fait la queue pour les dédicaces, ça m'a jamais intéressé. Parce que ce que je voulais, c'était. En gros, c'était les faire.
Oui, oui. Mais de l'autre côté de la table.
Et du coup, d'être dans le fanzine, c'était très bien parce qu'on participait le soir aussi au repas, tout ça, et ça permettait de rencontrer les auteurs, de discuter, de montrer les projets. Pour l'anecdote, le tout premier auteur à qui j'ai présenté mon travail, c'était à Antibes et c'était Denis Bajram.
Denis, qui
a été le premier à conseiller sur mon parc.
Qu'est-ce qu'il t'a dit, Denis, là-dessus?
Je me rappelle plus trop à l'époque ce que c'était, mais c'était rigolo parce qu'il était finalement plus gêné que moi parce que ça l'embêtait je pense qu'il voulait pas être trop méchant en fait, parce que c'était assez pourri quand même. Ce que je faisais à l'époque.
Qu'avec le recul, on se rend compte.
Et je me rappelle d'une réflexion, c'est que j'avais fait des gouttières, donc c'est l'espace entre les cases,
ouais.
qui était hyper large, ça faisait 1 cm.
Attends, on va montrer ce que c'est que.
Illisible.
Attends, on va montrer ce que c'est qu'une gouttière. Hein. On va prendre une planche, à peu près celle-là. Alors celle d'avant, la gouttière, c'est cet espace-là. Quoi.
Voilà, c'est ce qui représente l'espace-temps entre deux cases. En fait.
Ouais, et voilà une gouttière, on la voit bien, c'est cet espace blanc.
À l'époque, les gouttières faisaient 3 fois ça.
Ça remplissait la moitié de la page.
C'est une
perte d'espace, quoi.
Ouais.
D'accord. Donc voilà. Et alors, ton premier projet qui est accepté?
Alors, premier projet accepté, c'était les Hydres d'Arès, en fait. Il se trouve que j'étais dans le projet. Alors, je m'étais payé quelques critiques qui m'avaient un petit peu déboussolé. Je savais plus trop où j'en étais. Et entre-temps, j'avais été aussi en contact avec Martin Moreno, le dessinateur de régulateurs, par exemple, qui, lui, donc, devait faire les Hydres d'Arès aussi avec moi. Et du coup, lui, n'ayant pas vu ses pages en question, je me suis dit, tiens, je vais avoir un avis vraiment objectif. Parce qu'on ne connaît pas encore le truc, on va voir. Je voulais balancer. Et là, en fait, il me renvoie un mail, il me dit putain, t'as vachement progressé, appelle-moi, dès que tu peux, faut que je te pose d'un truc.
Ben, super. Okay. Ouais,
ouais. Mais à l'époque, je bossais, donc j'ai passé la journée à me dire putain, faut que j'appelle. Et le soir, je lui téléphone, et quand on discute un peu, il me dit viens, t'es là, et tout, écoute, voilà, tu vois ce que c'est, les Hydres d'Arès? Je dis bah oui, d'ailleurs, tu bosses dessus, tu vas le sortir? Bah, je dis bah non, parce que, en fait, j'ai pas le temps. Le régulateur avait explosé à l'époque, en vente. Donc il s'y consacrait et il dit mais par contre, moi j'aimerais bien que tu fasses des essais, je cherche un dessinateur pour le faire. Moi j'étais assis sur mon canapé, hein, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire les essais, qui ont pu d'abord à Corberan, ensuite à Dépôt, et je reste parti.
Donc
en fait, j'ai eu la chance de ne pas véritablement faire de projet éditorial. À dire de base, parce que j'étais déjà sur quelque chose avec un scénariste confirmé, avec Marc qui avait fait le storyboard en plus à l'époque. J'étais dans un encadrement qui était très rassurant et pour moi et pour l'éditeur.
Donc avec les Hydres d'Arès qui est publié, qui connaît un certain succès, quoi, relativement.
Mitigé quand même.
Pour un début.
Il y a les 3 lecteurs qui sont là, c'est eux.
Il n'y en a que 3, mais on les a retrouvés alors. Donc voilà. Donc, tu travailles quand même avec un scénariste super confirmé qui s'appelle Corbeyran. Ouais. Là, ça doit être comme. Alors, comment tu appréhendes ça finalement? Vous avez travaillé, je pense, par Internet ou quoi?
Je pense que je continue à toucher un peu du bois là parce que j'ai une petite étoile qui va être quelque part. Parce que ce qui est assez sympa, c'est que j'ai eu des contacts avec Eric pendant l'exécution au départ. des recherches et tout. Une fois qu'il m'a dit ça me plaît, on m'a montré un défaut, ok. Et puis une fois que Delphine dit oui, Port de Rang m'appelle chez moi. Déjà moi j'étais super flatté de ça, parce que c'est chouette. Quoi. Et donc on dit voilà, Delphine a dit oui, c'est super, machin. Et puis là, il dit bon après, voilà, moi j'ai un truc que je t'ai pas dit parce que je voulais pas non plus brûler les étapes, mais en fait, mes parents habitent Fréjus, donc j'habite Fréjus, et je viens tous les étés les voir. Donc en mois d'août, je descends, on va pouvoir se voir et tout. Formidable. Donc il est descendu, on s'est vu à la maison, on a mangé ensemble, on a parlé du projet, on a pu se voir donc physiquement, parce que c'est important aussi pour bosser ensemble. Et voilà, et après moi je suis allé sur Bordeaux chez lui, et humainement en plus c'était vraiment super, c'est quelqu'un de vraiment d'adorable. Et du coup tout s'est très très bien passé avec
lui. Ouais, alors quand tu abordes, comment dire, peut-être la première planche que tu vas faire avec lui quand le contrat est signé et que tu bosses. T'es dans quel état d'esprit, toi, de savoir que t'as un scénario qui est quand même d'un grand scénariste, que c'est un album qui doit être publié? Comment tu abordes ça, toi, mentalement, comment on fait pour ça?
À l'époque, j'avais peur de rien. J'ai foncé tête baissée, je me suis pas... justement, Jean-Luc Tistin, qui m'avait dit, putain, j'ai vu, tu veux faire les îles, c'est couillu, parce que bon, les Striges, c'est dans l'univers des
Striges, ouais.
Les Striges, c'est Guérino, enfin, je suis prêt, et puis en fait, je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Avec le recul, je pense que j'aurais mieux fait de flipper un peu plus, j'aurais sûrement fait du meilleur travail, mais en même temps, cette énergie que j'avais m'a permis vraiment d'avancer et de progresser tout au long des pages. Et en plus, voilà, j'envoyais mes pages, Corberan aimait bien, Delcourt disait c'est bon, donc j'étais sur une dynamique très, très positive comme ça. J'ai pas du tout mesuré en fait de pression que ça représentait ou quoi, je fonce. J'y vais. Alors, je suis un peu comme ça, mais quand il y a quelque chose comme ça, je flippe, avant. C'est un peu comme là maintenant, ça fait 2 heures que je flippe, je me dis qu'est-ce que je vais raconter à la conférence. Une fois que je suis là,
on y va.
Tout va bien, je veux dire, personne ne mord, personne ne hurle. Voilà, une fois que je suis dans l'action, en fait, tout est parti et là je suis à fond dans le truc.
Alors, maintenant, étape suivante, tu reçois l'album. La première fois que tu vois ton bouquin qui est édité.
Ouais, le premier, c'est un peu particulier parce que.
Et qui existe finalement, tu existes comme auteur.
Quand c'est bien passé avec Corbeau, autant avec les cours, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a beaucoup de problèmes de coloriste.
Ah oui, d'accord.
Et du coup, il y avait. Bah, par contre, il y avait vraiment beaucoup d'inquiétudes quand j'ai reçu cet album-là. Et ce qui est assez rigolo, c'est quand je l'ai reçu, j'ai tout de suite pensé au second en fait. Là, je me suis dit, bon, là, sur le deuxième, il va falloir faire mieux.
D'accord. Tu voyais que les défauts, quoi.
Je voyais que les défauts, et je voyais surtout que c'était que le début de quelque chose, ouais. Et qu'il fallait confirmer voilà, que je pouvais faire un autre et peut-être d'autres après. Donc, d'ailleurs, le gros changement, c'est du coup, à partir du tome 2, j'ai fait mes couleurs, mes propres couleurs. Ça a aussi donné. J'ai plus, en fait, sur ce tome-là, plus de pression finalement.
Ouais, d'accord. Je pense que moi, le premier était un peu.
Couleurs. Sur le premier, c'était un peu. C'était un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est l'aventure du jeune auteur qui se dit ça y est, j'y vais, il y a l'excitation, tout ça. Et le deuxième truc, il dit attends, on se calme un petit peu. Et là, par contre, il va falloir montrer qu'on est auteur, quoi. Et là, il faut y aller.
D'accord. Donc les titres d'arrêt, ça va durer, je ne sais plus, 2, 3?
3 tomes.
3 tomes, ouais. Bon, après, tu vas faire différents projets, tu vas faire un GS.
Oui, après, j'étais dans les projets, la période commençait à être difficile par rapport au marché. Comme le dit, on n'a pas super bien fonctionné.
Ouais, on va rappeler un peu les titres d'arrêt, tu fais ça dans quelles années à peu près?
Le premier album sort en 2016.
Ouais, d'accord. 2007.
J'ai signé en fait au moment où ça commençait à être.
Ouais, ça commençait à être compliqué au niveau du marché, commençait à se
changer. Les 3 tomes, ça nous amène à peu près 2009.
Ouais.
Donc là, ça devient compliqué. Les îles n'ayant pas marché, j'ai pas de poids pour un autre projet. Corberan, il part sur d'autres sujets, parce qu'il y a plus de. Donc j'essaie de monter des projets, c'est un peu long. Et comme entre temps, à partir de mon tome 2, j'ai quitté mon job à la fin. Donc là, je fais que de la BD. Donc là, il faut que je gagne un coup. Et à un moment, par contre, Corbet revient, il me dit, tiens, on galère sur un album, le coloriste a disparu, on ne sait pas où il est. Est-ce que ça te dit, en attendant de signer un projet au dessin, de faire de la couleur? Pourquoi pas? Donc je fais pareil, encore je fais des cours, donc je fais un essai, et du coup, je me suis trouvé à faire de la couleur comme ça pendant 2 ans, tout en travaillant le dessin. Quoi. Et au bout d'un moment, au bout du 4e ou 5e projet qui ne se signe continuez pas à cause de... On ne sait pas trop quoi, parce que à chaque fois, je suis intéressé. Mais vraiment, vous ne pouvez plus, quoi. C'est, ça ne se fait pas. Je me dis, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, j'ai un auteur, Sébastien Godal, qui me dit, arrête de dessiner pour la BD, c'est autre chose. Dessine, mais pas pour la BD. Et donc, pendant un mois, je dessine, mais que du probar, que des trucs comme ça. Et ça, ça... Et le projet suivant, c'est Siberia et l'ancien.
Donc c'est Siberia. Donc c'est surtout comment dire, pour Siberia que tu es venu ici, qu'on t'a demandé. Alors donc là, tu fais ça en collaboration avec le scénariste qui s'appelle Christophe Beck. Penuron, tout à l'heure, en préparant un peu ça, on discutait comme ça de manière un peu informelle. Et tu me disais que toi, quand tu veux faire un... Tu veux travailler en collaboration avec des gens, tu aimes bien... Bon, c'est bien de travailler par Internet, c'est bien comme ça, mais il y a quand même un moment, il faut voir l'homme, quoi. Ça, ouais. Ça, c'est important, quoi.
C'est important.
L'homme ou la femme, ou...
Oui,
c'est bien aussi.
Mais oui, c'est important parce que justement, là, on est entouré de la science-fiction, on parle de l'intelligence artificielle, tout ça, c'est génial, si on a des avancées technologiques, c'est hyper intéressant. Mais, ouais. Moi, ce qui me frappe, en tout cas, et ce qui moi me touche, c'est qu'on assiste en même temps à une déshumanisation générale de beaucoup de choses. Et dans la BD, ça, dans les collaborations BD, ça se ressent beaucoup parce que. Alors autant, il y a quelques années, j'aurais peut-être pas pu bosser comme ça avec Barberan parce qu'il n'y avait pas Internet et que j'aurais peut-être pas pu communiquer aussi facilement avec l'auditeur et tout ça. Autant, il est facile de ne pas se rencontrer du tout physiquement. Il y a plein d'auteurs qui font des boulots sans jamais se voir.
Ouais, et puis même
à une distance ou parce que... Et je trouve ça très dommage parce que...
Il y a des exemples célèbres de gens qui ne communiquaient à l'époque que par fax, quoi.
Oui, voilà, que par fax,
c'était encore plus compliqué.
Moi, j'ai toujours du mal, effectivement, Christophe, ça a été lors d'une rencontre sur un festival. On est resté en contact après, parce qu'évidemment, on est loin, donc les contacts se font de manière épistolaire à travers les mails. Mais il faut que je sente que le courant passe.
Oui, ouais, d'accord. Donc, et le courant est passé avec Christophe Beck.
Le courant est passé.
Alors. Donc, vous allez, comment dire, imaginer ce projet de Siberia 56, quoi. Donc, il faudrait savoir, moi, comment Christophe, c'est Christophe qui t'a présenté le projet, ou c'est toi qui lui as dit, bah, écoute, je voudrais bien faire un truc de SF, ou alors, comment alors,
moi, après l'aventure des Hydres, j'avais juré que je ne ferais plus de SF, en tout cas, pas tout de suite.
Ouais, d'accord.
Parce que j'avais peur qu'en commençant les pages d'un projet... ces souvenirs qui étaient encore assez vivaces me bloquent dans ma production. Et donc Christophe me fait passer un projet qui n'était pas du tout SF, mais qui ne m'a pas parlé du tout. Donc je lui dis, voilà, ça moi je ne vois pas dedans, donc bon, aucun problème, on a continué à discuter, et à un moment, alors je vais te faire un dessin de fantasy.
Ouais, d'accord.
Sur Facebook. Il dit, ouais, j'ai vu que la fantasy, je dis, ouais, ça me dirait bien. Je lui dis, ouais, mais je ne vois pas la fantasy, donc quoi, je ne supporte pas. Mais je fais ténèbres, c'est très bien, mais j'en fais pas plus, parce que c'est pas du tout, c'est pas grave. Après, je dis, moi j'aime aussi cyberpunk, on parle quand même, mais c'était dans la discussion. Et là, il me dit, mais j'ai un truc de SF, j'ai commencé il y a quelques années. Je vais regarder, je dois avoir des notes, je te fais passer ça, si tu veux, je te dis, pourquoi pas, parce que bon, je suis toujours curieux. Et là, du coup, il m'envoie Siberia, et en lisant Siberia, j'ai lu un récit de SF... pur et dur, très classique dans le genre, mais assumé, et avec tous les parfums en fait que sont mes influences, que ce soit le cinéma comme la Vienne ou BD avec ce que Christophe lui-même faisait, parce que j'étais déjà lecteur de sa production, et d'autres auteurs, quoi. Là je vois ça quand même, il est pas mal, il y a quelque chose de sympa, et du coup je me suis lancé là-dessus.
Donc ce
que tu montres là d'ailleurs,
voilà, je montre en bas.
C'est une des toutes premières illustrations.
Une des recherches que tu as faites pour Siberia, quoi.
C'est bien fait comme ça. Il y a la même en couleur.
Ouais, doit être juste avant, on a la même en couleur. Là, on va vous montrer quelques.
Ouais, voilà. Parce qu'au départ, Siberia, on pensait le faire en fait en peinture, comme ça, sans encrage.
Ah, d'accord.
On a même présenté le projet comme ça d'ailleurs au départ, avec et c'est Philippe Bourré, l'éditeur, qui a dit ouais, je trouve ça super, mais est-ce que je pourrais voir une page ancrée quand même pour être sûr?
Ouais, donc.
Les pages ancrées après, ils ont préféré.
Ils ont préféré, ouais. Ce n'est pas ancrées. Donc, Siberia 56, donc, c'est vraiment de la. Ce qu'on appelle la SF, la rare SF. On est, comment dire. C'est situé dans le temps, non, pas tellement, non. On est vers quelle époque? 3000 quelque chose, ouais, dans une époque on sera encore là, parce qu'il y a une intelligence artificielle, on va y arriver, on sera tous des robots. Donc on est en 3000 et quelques, la Terre a plein de planètes, dont la 56e, Sibéria 56, ouais. Et il y a une mission qui part pour cette planète, quoi, finalement. Ouais. Et c'est l'histoire de cette mission que vous allez raconter, quoi.
C'est ça, sachant que c'est pas la première mission, en fait, c'est la relève d'autres missions, déjà, ouais. Et cette mission qui doit relever l'équipe de scientifiques sur place, se crache sur la planète et doit traverser à pied pour rejoindre la base.
Donc voilà, donc cette mission, donc on voit dans la première planche du premier album, donc on voit quand même qu'on est dans les vaisseaux. Tu peux nous la commenter?
Ouais, là, ça c'est la scène d'entrée qui dure 3 pages, je crois.
À peu près 3 pages, ouais.
J'en avais discuté avec Christophe, parce que c'est une scène qui est très connotée, qu'on a vu et revu dans plein de films.
Oui, mais en tout cas, mais toutes les influences
sont là. Christophe m'a répondu, et je trouve tout à fait justement, c'est que c'est à proprement parler le truc de Sibéria, c'est que c'est un passage obligé. Par contre, on l'a fait très rapidement, parce qu'on n'avait pas assez de temps dessus, mais le réveil cryogénique, le code du genre qui veut...
Ouais, le vaisseau qui arrive, les gens qui...
Et Sibéria, c'est ça, c'est-à-dire celui qui cherche une série de science-fiction originale, au sens propre du terme, il ne sera pas nourri avec Sibéria. Sibéria, c'est au contraire, à la limite, ce serait presque un espèce de grand hommage à tout ce qu'on connaît comme référence. Et on est dedans à fond, quoi.
Ouais, non, mais ce qu'il y a, c'est que le lecteur...
En faisant un récit original par lui-même, bien
sûr, dans son contenu,
c'est
finalement.
C'est l'histoire de Christophe, mais avec tout ce que ça peut contenir, non, que l'image et référence qu'on aime.
Ouais, le fait de cette première page, quand on la lit et qu'on rentre dedans, on est tout de suite à l'aise, quoi.
Voilà,
ouais, c'est ça. On sait faire, on est pas en terre, on comprend bien qu'on va aller dans une histoire de son fils. Après, où ça nous emmène, mais c'est vrai qu'on rentre vraiment bien dedans.
Mais
quoi.
C'est ça, je pense que la force de cette histoire, c'est ça, c'est qu'on sait où on va tout de suite.
Ouais,
donc après, si on a envie d'y aller, on y va. Content. Si on n'a pas envie, on le pose, c'est pas grave. Mais voilà.
Ouais, ça c'est
on
comme un film.
Trompé,
ça c'est comme un film, les premières images. Des fois, tu. Ah ben, tu as déjà vu, mais au fond, moi, tu sais où tu es, tu vas continuer à suivre. Quoi. Alors maintenant, on va commenter la page suivante qui est. Bon. Alors, cette mission arrive, les gens arrivent sur Sibéria, ils vont découvrir cette planète. Alors, par contre, ça c'est une double page que tu fais, qui doit être la 6-8, non, un truc comme ça.
Ouais, c'est un truc comme ça.
Ouais, la 6-8. Donc ouais, alors. Voilà, donc ça c'est intéressant, on a vu la première page qui était simplement sur une page, et là il y a un moment pour nous, on voit les gens de la mission, et pour nous décrire un peu cet univers, sa grandeur, tu utilises carrément une double page, donc
ouais.
C'est un mode de lecture qui est un peu différent quand même.
Ça c'était pas prévu comme ça dans le découpage initial de Christophe, et c'est justement la première scène où j'ai commencé à prendre la mise en scène un peu, en fait. Où là je me suis dit, putain, il y aurait quelque chose à faire quand même avec le décor, donc dans ces cas-là, en tout cas, à ce moment-là, je lui faisais les deux propositions, c'est-à-dire le découpage bordé tel que lui l'a imaginé et ma proposition.
Ah, d'accord.
Et en fait, ça lui a bien plu que je m'implique là-dedans, je pense. Et là, c'est vraiment l'exemple type parce que ça a été aussi le moment où je me suis dit, on va quand même se balader tout un album sur une planète glacée. Et là, le gros défi, c'est quand même d'avoir aussi le sentiment de voyager, qu'on ne voit pas tout le temps les montagnes qu'on connaît. Donc il fallait que le paysage ait un impact suffisant et qu'on sente la petitesse aussi des personnages qui sont perdus là-dedans.
Donc tu fais cette double page. Alors pour les gens, comment dire, bon, la première page qu'on a vue, c'est une lecture classique. Alors celle-là, pour la lire, il faut quand même se promener bien dans l'image, quoi.
Voilà. Après là, je pense qu'on n'a pas qui joue beaucoup dans le livre, c'est qu'on a la séparation naturelle
Là, qui est à peu près par là, quoi.
On ne tourne pas tout de suite sur la double page.
Ouais. Alors ce qu'il y a dans ce type de page qui est intéressant, c'est que il y a une narration qu'on voit et on peut lire. On voit que l'intrigue, que l'action avance. Ben alors toi, par contre, il y a aussi une deuxième lecture, à mon avis, qui est une lecture purement graphique sur cet espace, parce que t'as un crayonné, t'as tes noirs, t'as tes blancs. Et aussi, ce qui est extraordinaire dans ce genre de choses, et qui est quand même, à mon avis, un peu compliqué à réaliser dans ce type d'album de SF, on en parlait hier avec Elric et avec Morcock, c'est, comment dire, on va aborder les couleurs, parce que là, il y a un travail sur les couleurs qui est finalement indispensable et qui fait que toute la tonalité de l'album et toute la richesse de l'album apparaît, quoi. Toute la richesse de l'histoire apparaît.
Ouais, j'ai tout de suite la volonté d'utiliser une palette très réduite en fait.
Donc, très réduite.
Beaucoup de gris et de travailler en fait sur la lumière. Là, on le voit bien puisque on a une page de gauche comme ça qui en fait en elle-même est très terne.
Ouais,
on a une lumière un peu blanche sur les cases.
Ouais,
par contre, on a sur la double page entière, on a l'œil qui peut nous attire dans le sens de lecture.
Vers là. Sur la période lumineuse. Alors, c'est toi qui avais fait la proposition de cette page, mais c'est toi qui l'as complètement conçu ou c'est avec ton scénariste, vous avez dit, bon, toi, tu as proposé quelque chose.
Graphiquement, c'est vraiment moi qui l'ai conçu.
Graphiquement, mais même au niveau du montage, du découpage.
Ouais.
Ah, d'accord.
Après, même parfois, je décale des bulles par rapport à ce que je me propose, parce que comme je change moi la mise en page, le rythme change. Et je me sers des bulles aussi comme chemin de lecture pour pouvoir corriger dans la page.
D'accord.
Parce que là, on rentre dans la page à gauche, en fait, on est tout de suite sur les personnages.
Ouais, on voit les personnages.
On va lire la bulle,
ouais.
Et la seconde bulle, en fait, nous emmène complètement de l'autre côté, mais l'œil, du coup, traverse aussi la case.
Ouais, c'est ça.
De dessous. Ouais. Et on continue comme ça en diagonale pour ensuite revenir. Et tout chemin comme ça, des bulles, fait que l'œil est guidé, en fait.
Ouais, c'est ça.
Du coup, on s'attarde quand même un minimum sur ce grand espace, parce que le danger sur une page comme ça, ce serait justement d'avoir un grand espace, mais de passer tout de suite à la case de la fin. Et du coup, on ne s'attarde pas
sur la courbe.
Alors que là, c'est le propos de la page.
Le gros lavage, ouais, c'est de décrire le paysage, de mettre en place tout cet espace.
Quoi. C'est la découverte, c'est l'histoire.
Ouais, ils découvrent un peu leur planète.
Pied, quoi.
Ouais. Donc, ils vont se promener sur la planète. Bon, évidemment, ça ne va pas bien se passer.
Non.
Ah ben, le scénario, il dit oh non,
il
est
évident.
Il n'y a rien. Donc. Comment dire, quand on voit sur la couverture cette espèce de bestiole, hein, genre un alien qu'ils vont découvrir, au fur et à mesure, comme ils sont à la recherche d'une mission, qui semble avoir disparu finalement au niveau de l'intrigue, quoi. Les gens qui doivent se remplacer, ils ne les trouvent pas, quoi.
C'est-à-dire qu'ils savent où c'est à peu près, mais comme ils n'ont plus d'équipement, c'est un peu compliqué.
Oui, comme ils sont crachés,
ils ne peuvent pas communiquer. Quoi.
Ils ne peuvent pas communiquer. Donc ils partent carrément en exploration. Et ils vont tomber sur. Ils vont leur arriver plein d'aventures.
Et là, on va découvrir un peu la faune.
Les premiers obstacles auxquels ils vont arriver. Alors là, tu travailles sur une autre palette graphique de couleurs là.
Oui. Là j'ai fait. C'était dans le scénario de Christophe, c'était le lever de soleil. Enfin de soleil.
On ne sait pas trop quoi.
De planète en tout cas. Et là, pour le coup, oui, c'est comme c'est une scène très calme et que c'est un peu le calme avant la tempête, je suis parti sur des couleurs un petit peu plus chaudes. Comme ça, on est sur quelque chose d'un peu rassurant, c'est joli. On pense pas au danger qui arrive là.
Non, les gars, ils se reposent un peu, c'est tranquille.
Et on va y aller après. Quoi.
Alors là, ça se complique un peu. Là. C'est comment dire, on voit les personnages. Là, c'est quand même. Une planche quand même qui est assez élaborée, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de cases.
On découvre un gros animal, il y a beaucoup de dialogues, c'est un peu l'étude, donc là c'est une scène un peu de transition.
C'est un peu une scène Mais alors par contre, au niveau du dessin, de la mise en page, tout ça, du découpage, il y a quand même un énorme travail. Même pour une scène de transition, quoi.
Oui, parce que c'est important d'être avec les personnages et en même temps avec leur découverte. La bestiole gelée, là, qui en plus ils ne connaissent pas.
Oui, ils ne savent pas ce que c'est, la bestiole elle est là. Hein. On ne voit pas trop ce que c'est, ouais.
Vous pouvez intervenir s'il y a des questions, je vous
fais pas. Oui, n'hésitez pas. Donc, alors, on voit dans cette histoire de SF, Christophe Beck, je pense, a été un grand connaisseur de la SF, parce qu'il a fait pas mal d'histoires dans ce genre-là. Toi, la SF, qu'est-ce que ça représente finalement par rapport à tes lectures, tes influences, d'où ça vient?
Ouais, moi ça représente avant tout un univers graphique en fait. La science-fiction ça déclenche vraiment des envies de dessin en fait. J'aime bien ça. Alors c'est assez rigoureux parce que on est beaucoup dans la mécanique. Il y a des vaisseaux, il y a des bases futuristes, donc on est sur des structures comme ça très carrées, donc c'est assez exigeant à ce niveau-là. Même si dans ce tome-là, ça n'a pas été trop le cas, donc il n'a pas l'air sur une planète, mais d'une manière générale, c'est le cas. Il y a les scaphandres, par exemple. Et moi, j'ai un petit peu du mal à faire un scaphandre sans dessiner tous les petits traits du tuyau, machin. J'aurais pu faire un tuyau lisse, par exemple, mais je trouve que graphiquement, c'est moins intéressant. Quoi.
Ah, d'accord, donc tu
D'ailleurs, vois. J'ai assez galéré sur le design des scaphandres dans cette histoire, parce qu'au départ, comme je racontais tout à l'heure, je voulais partir sur quelque chose d'assez original. Sur des formes plus modernes que l'on peut connaître aujourd'hui. Mais en fait, quand je l'ai fait, les personnages paraissaient collés sur les pages sans être vraiment intégrés dans l'univers. Ça ne collait pas au récit. Et au final, je crois que j'ai dû redessiner les armures 4 ou 5 fois. J'en suis toujours pas satisfait à la fin, mais au moins, Elle a du corps, quoi. On sent qu'elle est plausible, qu'elle est là et que c'est intégré dans tout ce système, enfin, dans tout le système de l'univers lui-même que je mets en place. Parce qu'au moment où je fais ces pages-là, j'ai déjà une idée de la scène, une des scènes finales où on voit la base. Donc il fallait que ça colle.
D'accord. Ouais. Donc on arrive sur une autre double page finalement, hein, celle-là. Hein.
Alors là,
il y en a pas mal. Oui,
j'aime bien.
T'aimes bien, t'amuses bien.
J'aime bien m'éclater.
Oui, t'éclater, faire des pages comme ça. Alors celle-là est assez aussi. C'est ton idée, c'est celle du scénariste, parce que tout à l'heure c'était ton idée.
Alors, je l'ai un petit peu modelé, mais c'est-à-dire que ça ne devait pas être prévu en double page, mais en gros c'était quand même la volonté de départ de Christophe. Ça. Ouais. Là, donc, là sur celle-là, ce qui est assez marrant. C'est une fois l'album sorti, quelques temps après on a commencé à avoir les trous en Sibérie.
Oui, oui, ça.
Je sais pas si vous avez suivi ça. Et c'est exactement ça, les photos qu'on voit. Quoi. Donc ça a été assez rigolo. D'ailleurs, même dans les moteurs de recherche, même à travers Facebook ou quoi, quand on tombe sur l'image supérieure, on nous propose d'aller voir des articles en Sibérie avec les trous qu'on ne sait encore pas trop expliquer. Donc ça avait un petit côté comme ça visionnaire de Christophe qui était assez sympa.
Ouais, d'accord, sympa. Ouais. Donc là aussi, tu peux nous la commenter, nous dire à peu près comment tu l'as conçue pour que finalement cette image, bon, qu'elle soit hyper importante, parce que là on va quand même commencer à rentrer dans l'action et dans les
là, groupes. Là on entre dans le mystère.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce trou, quoi?
Voilà, ben là, à ce stade de l'histoire, on ne sait pas du tout. Hein,
on ne sait pas encore.
Hein. Je crois que même, si je me souviens bien, les colons qui sont déjà sur place, ne savent pas l'expliquer non plus. Ouais. Je ne sais même pas s'ils savent que c'est sur la planète. Donc là, c'est la vraie découverte de leur planète.
Voilà. En fait. Donc, en tant que ressort dramatique, il y a un gros mystère. Là, voilà. On commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose de...
Charge à Christophe de nous expliquer ça sur la
sur les pages suivantes. Ouais. Alors là, pour la conception de cette page, là, il y a quand même... On voit ici qu'il y a deux cartouches qui se ressemblent beaucoup, qui sont un peu similaires, là où il y a plein de choses qui sont presque des planches intégrées à la planche, ouais. Quoi. Qui sont elles-mêmes des planches intégrées à la planche, quoi, finalement.
Oui, voilà. Je voulais laisser beaucoup de place à la découverte de ce truc mystérieux, de ces monolithes qui l'entourent.
Ouais.
Et du coup, on est d'abord sur l'arrivée des personnages.
Là,
on se rapproche d'eux, puisqu'on est avec eux dans leur réflexion.
Ouais.
On descend sur la page de gauche, où ils sont ridiculement petits à côté de cette découverte immense. Et après, on revient avec eux. On va voir en bas, jusqu'à la dernière case, on est en train de plonger, qui résonne avec la plongée de la grande case. Et voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a fait.
Alors, moi, ce qui m'intrigue et ce qui me surprend, pas surprend, mais c'est que je trouve assez remarquable dans cette planche, c'est que toutes ces petites cases, elles sont extrêmement lisibles. Elles sont extrêmement lisibles. Mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à faire. Pas compliqué, mais difficile, parce que tu joues sur quoi pour garder la lisibilité de ces pages, de ces cases?
Ce que j'ai appris au fur et à mesure, c'est que le temps compliqué, il faut pas en abuser. Genre, en bande dessinée, on n'est pas dans l'illustration.
Ouais, voilà.
Il faut que, en gros, quasiment, il faut qu'une case, une information.
Ouais.
Deux, ça peut arriver, ou ça peut être un ressort de mise en scène aussi, mais si on complique trop si on donne trop d'informations, en fait, le lecteur se perd un petit peu et soit bute sur la case et donc casse le rythme de la lecture, soit passe dessus sans voir l'info qu'on veut faire passer, et c'est pire. Donc sur ces petites cases comme ça, voilà, c'est pas des plans compliqués, hein, on est face au perso, il marche, après on a un gros plan, plein buste. Et du coup, voilà, la lisibilité. La lisibilité se joue d'abord sur le noir et blanc. Là, on ne peut pas le voir parce qu'on n'a pas la version noir et blanc, mais il faut que les masses soient là, attirent l'œil tout de suite. Et sur une page, en plus, une fois mise en couleur, ce qui est important, c'est que l'œil est d'abord attiré par le blanc.
Ouais.
Donc, on a des bulles qui jouent un rôle très important aussi, encore une fois.
Il faut que le blanc attire l'œil pour la lecture.
Et
quoi.
C'est aussi pour ça que j'ai fait attention de jouer sur la lumière.
Par
exemple, on voit bien sur la page de gauche que. La lumière blanche est vraiment vers le bas.
Ouais, on la voit bien. Là.
Le point d'origine en haut, avec la première case où on a les persos dedans.
Ouais, on le voit bien ici.
Blanc.
Ouais.
On continue avec eux, c'est un peu plus neutre. Et on a vraiment le blanc tout en bas. Pareil, on voit, ils sont tout petits, on les voit.
Ouais, ils sont tout petits, on les voit bien. Voilà. Parce que c'est... enfin l'écueil qu'il faut éviter, que c'est que tout ça soit, comment dire, forme une masse.
Ça s'est dégagé.
Ouais, et forme une masse dans laquelle on a distingué des personnages, ouais. On ne voit pas quoi. Et puis alors là, ce trou et puis ces lignes qui t'entraînent, qui nous entraînent vers le trou, quoi. Ça, c'est, alors, toi, quand tu conçois une planche, tu pars de quoi? Quand tu vas faire une page comme ça, ton plan de départ, c'est tu travailles en numérique au départ?
Là, c'est cet album-là, je travaille en numérique exclusivement.
Ouais.
Mais ça change pas.
Ça change pas grand chose
du travail, en fait. Hein, c'est juste petit qui change. Moi, la façon dont je fonctionne, c'est que je lis la scène. J'imagine un petit peu comment je peux la raconter en différents plans. Et là, en fait, je trace mes cases, en fait. Je trace les bords de cases.
On va prendre par exemple sur cette image.
Voilà,
donc,
là,
tu traces.
En plan, je me dis, tiens, ça, un beau plan panoramique. En plus, là, on est sur une scène très calme. Donc, j'ai joué sur des horizontales.
Ouais.
Et ça a un côté comme ça très cinématographique. Mmh. Même si c'est toujours dangereux de dire ça en bande dessinée parce qu'on n'est pas sur le même média.
Il y a quand même des correspondances. Hein.
Voilà.
Bah, les plans, les gros plans.
C'est là qui fait le travail. Donc là, voilà, je lis mon premier plan, on a le lever de quand c'est un coucher de soleil, très calme.
Les personnages qui regardent.
Il faut qu'il y ait un côté très zen, donc on est parti. Bon, c'est aussi pour ça que je suis parti sur des roses et des oranges. On est avec les persos, on les voit observer, c'est calme, un petit bip-bip, on est toujours dans l'horizontale, et là, le bip-bip, c'est une alerte. Et là, je passe sur les verticales volontairement parce que le rythme s'accélère un petit peu.
Ah, d'accord.
Là, hop, on fait un gros plan sur le personnage qui est surpris, on est près de lui, c'est un gros plan.
Ah, ouais.
Et là, la tension arrive, la tension, le danger est arrivé, et derrière, il va falloir bouger.
Eh ben ouais, il va falloir bouger, ouais. Donc, ouais, tu parlais justement de cinéma, donc c'est vrai que le langage de la BD et le langage du cinéma ont des mots communs, quand on parle de plan large, de gros plan, de plan moyen, de plongée contre plongée, quoi. Il y a quand même quelque chose qui est assez similaire, même si c'est de l'image qui ne bouge pas, quoi. Alors par contre, ce qui est important en bande dessinée, autant au cinéma, il y a 24 images par seconde, un lecteur en bande dessinée, il y a à peu près une image par seconde, quoi.
Je sais que j'ai essayé de rappeler ça un petit peu. Autant de faire la corrélation entre un film et un album de temps de lecture, et une page correspondrait à peu près à une minute
d'un film, quoi.
Sur un film, voilà.
D'accord. Donc un 46 pages, ça fait 46 minutes, quoi. Ça fait,
voilà,
ça fait un
cours.
Deux albums, ça fait un film, quoi. Donc là, ça aussi, c'est une page assez... Donc là, on a vu que dans la séquence précédente, le danger est arrivé. Alors là, celle-là, quand même...
C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la verticalité... En plus, là, en l'occurrence, c'est une chute.
Ouais, une chute.
Donc on est à fond là-dedans. Et j'ai rajouté quelques diagonales sur une case pour augmenter la sensation de chute de bestiole. Et là, on est dans l'urgence, et juste après...
Ouais, bah la case.
Quand ça se calme, on repasse à l'horizontale.
Ouais, voilà, dès que ça se. Ouais, attends. Ouais, donc, ouais, ça, ouais. Alors, celle-ci aussi est assez. Celle-ci aussi est assez.
Comment c'est devenu préférée,
celle-là. Ça m'étonne pas, moi aussi, je crois qu'elle est vraiment très belle. Ouais. Alors là, il y a quand même.
Le noir et blanc, elle est pas mal.
Ouais, ouais. Parce que dedans, on voit que, comment dire, là, il y a carrément deux planches, quoi, qui sont pratiquement superposées pour raconter tout ça. Ouais. C'est vrai que l'effet à gauche, là, quand on voit tout ça avec les trucs. La montagne, là, c'est remarquable. Alors, c'est vrai que dans ce genre de BD, donc il y a une action, parce que là, ça bouge, il y a de l'action, mais il y a aussi, comment dire, un plaisir de lecture de l'image, quoi, donc un plaisir de lecture graphique. Quoi. On peut faire une première lecture, on se dit, bon, on va avoir l'action, on va voir ce qui se passe, on va voir les rebondissements. Puis après, quand on le prend une deuxième fois, on a plutôt une lecture un peu dégustation, quoi. On sait ce qui va se passer, on sait, bon, parce qu'on se rappelle comment ce qui va se passer. Et puis après, alors là, on commence à regarder les détails, à regarder comment l'auteur a fait, et on s'aperçoit que c'est un travail carrément phénoménal, quoi, parce que un travail... Alors, faire une planche comme ça, par exemple, ça te prend combien de temps?
Une planche, en tout, me prend en général peut-être 2-3 jours.
Couleur comprise?
Ouais, couleur comprise. Ouais. Sur la couleur, je suis assez rapide. C'est un peu comme ça... Après, c'est 2-3 jours, mais je fais des heures dessus.
Ouais, mais alors, tout à l'heure, on parlait, tu m'expliquais que sur le premier album, tu avais pratiquement travaillé tout en numérique. Alors, et que sur le deuxième, tu avais un peu changé ta technique. Tu recommençais à revenir au papier, quoi, quand même. À une réutilisation du papier, pas complète, mais
alors,
ça, un va-et-vient.
Je l'adore, par contre, mais sur certaines illustrations, sur la couverture, il y a un ancrage papier qui est fait avant la peinture.
Mais sur la couverture, tu fais un ancrage papier aussi. Mais tout à l'heure, on parlait de cette technique où tu utilisais la table lumineuse et le
côté. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais mettre en place.
Pour les prochains albums.
À l'avenir, mais si je peux mixer un peu les deux, ouais, c'est pas mal.
Ouais, et puis j'aimerais bien que tu m'expliques ce côté que tu me disais de contact, pour dire un petit peu sensuel finalement, ouais. Entre bon, la table lumineuse, c'est très lisse, et finalement le contact entre le pinceau et sur le papier.
C'est un plaisir complètement différent, la sensation n'est pas du tout la même.
Ouais.
On a quand même pas la tablette, je ne sais pas si vous me connaissez, mais je travaille sur une Cintiq, donc c'est une tablette d'écran sur laquelle on dessine directement sur l'écran. Donc on est sur une surface vitrée avec un stylet, et la sensation de glisse du stylet sur l'écran est, enfin moi, je la trouve super agréable. Par contre, c'est une sensation qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, de la même manière que sur la Cintiq, je ne retrouve pas le grain du papier, et le côté grattage, le côté sensorité du pinceau. On va chercher en numérique à retrouver des effets que peut avoir le pinceau, mais ça reste de l'artifice. Alors que sur le pinceau, on sent vraiment la brosse, le poil du pinceau qui s'éraille un peu comme ça sur le papier et qui laisse des traces d'accident. Donc c'est deux plaisirs complètement différents, et c'est vrai que j'aime bien prendre le temps. Là, je viens de finir un autre album que j'ai dessiné avec Brice Cossu, encore avec Christophe au scénario d'ailleurs, pour la carte de l'aventure. Et là, il y a des pages effectivement où on a tout préparé en numérique et après, je les ai imprimées et j'ai imprimé au format A2, tout au pinceau parce que ouais, le plaisir est différent. Mais par contre, au niveau du rendu, ça change absolument rien puisque même ce genre de peinture, en fait, personne n'a vu la différence sur ce que je fais en numérique ou pas.
Le rendu
lui-même ne change pas.
Alors, parlez aussi tout à l'heure avec le numérique. Comment dire, avec cet outil, le gain de temps que tu avais par rapport à la tradition ancienne de faire des planches, donc quand tu fais une planche en numérique, qu'est-ce qui te fait gagner du temps finalement?
Ouais, tout ce qui te fait gagner du temps, c'est sur la partie purement technique.
Voilà.
Parce que quand on fait une page sur papier, il faut la scanner, il faut la nettoyer, moi je travaille en grand, donc il faut la remonter en Photoshop, etc. Et toute cette partie-là, un temps infini par page parce que il faut scanner un peu haute résolution. Et du coup, moi j'avais calculé que ça faisait quand même gagner sur un album à peu près un tiers du temps, juste cette partie-là. Quoi. Après la partie dessin elle-même, je suis aussi rapide sur papier que sur du point numérique, mais tous mes à côté, sans parler du fait que sur les originaux, si on ne fait pas nous nos scans, il faut les envoyer chez l'éditeur, qui les scans, il faut les renvoyer, machin.
Et puis finalement, et le fait de gagner du temps, c'est une conséquence économique.
Là, c'est un vrai impact économique.
Oui, c'est une vraie conséquence économique. Parce que comme, je ne sais pas si les gens le savent vraiment, mais vous êtes payé à la planche finalement, à la tâche. Vous êtes payé à la tâche, donc vous êtes payé à la planche.
Un prix de page.
Vous avez un prix de page, si celui qui fait 12 pages par mois, il gagnera plus que celui qui en fait 6. Quoi.
Ouais.
Donc, voilà. Donc, et un peu maintenant, quand on a fini un album et qu'on discute comme ça, il y a quand même eu un moment très très important. Comment va être la couverture? Parce que la couverture pour un album de bande dessinée, c'est déjà le premier contact qu'a l'acheteur ou le lecteur potentiel. Alors comment on va faire pour lui faire comprendre tout ce qu'il y a dans l'album ou l'attirer, le faire ouvrir l'album, quoi.
Ouais.
Donc là, on voit la couverture du 1.
Ouais, là, la couverture... Bah après, les couvertures se font un petit peu selon les auteurs. J'en discutais, je n'ai pas la suite comme ça, justement, avec un jeune qui me disait que en fait, c'est pas un jeu ce qu'ils aient dans le bloc.
Ah, d'accord.
Moi, j'ai l'idée tout de suite, mais je ne le fais pas tout de suite. Je le fais une fois que je suis un peu rentré dans l'album lui-même. Une fois qu'il y a une idée qui m'échappe de la couverture. Après, pour celui-là, pour la petite histoire, la couverture, au départ, c'est ce qui est maintenant en quatrième de couverture.
Il n'est pas là, hein?
Non, je crois pas.
Non, d'accord. Ah, donc,
qui était au départ validé et tout ça, et puis en cours de route...
C'était ça que...
Ouais, c'est ça, ouais. En cours de route, chez Dena, ils ont décidé de changer d'avis. Donc on est reparti sur autre chose. J'arrivais pas très bien à cerner ce qu'ils voulaient. Et puis c'est Christophe qui a envoyé un petit ref de la composition et tout, et tout le monde tombait d'accord tout de suite, et à partir de là, j'ai réalisé la peinture.
Ah, voilà. Donc tu as fait ça à la peinture
numérique.
La peinture numérique, quoi. Ouais. Puis en plus, elle est quand même très relativement simple au niveau information.
On voit juste un. Elle est a priori, elle est assez rigide.
Ah ouais, elle est extrêmement réussie.
Elle est assez impactante. Et c'est vrai qu'en soi, tout de là, je pense que c'est aussi ça qui fait que les cigarettes sont pas mal reçues, c'est que la couverture ne demande pas sur l'intérieur, on peut déjà
connaître le sujet. Voilà, tous les éléments, ils sont quoi. Et on va voir pour la deuxième couverture. Attends, juste avant, c'est pas sûr. Voilà, la deuxième couverture aussi.
À la seconde couverture, j'aurais pu la faire avant de faire les pages, parce que j'ai eu l'idée vraiment tout de suite. J'ai même fait le ref en fait de la couve sans dire à personne, il était déjà prêt, je me suis fait comme ça, je me demande, je suis en direct. Et c'est cette première idée. J'en ai fait d'autres après quand même pour être sûr, mais c'est cette première idée qui a
vous avez gardé quand même. Alors pour faire une couverture comme ça, c'est plus long que la planche ou c'est assez rapide même avec le numérique?
Non, sur la couverture je m'attarde un petit peu, après ça dépend du processus. Là comme idée de venue vite, en soi l'exécution, en fait ce qui peut être bon c'est la phase de recherche. Après la réalisation de la peinture, une fois que je suis dedans, c'est pareil, en 2 jours, la peinture elle est finie, des fois je la laisse un petit peu de côté, histoire que ça refroidisse, de revoir ça à 4-9, et 2-3 petites lumières en plus, 2-3 détails, voilà, mais en soi ça peut faire à peu près le même temps d'exécution.
D'accord. Ouais. Donc, écoute, Siberia 56, là, donc pour l'instant, vous avez réalisé 2 albums.
Ouais.
Le troisième. Vous allez rentrer
en troisième. J'ai reçu un mail de Christophe qui me disait j'en ai découpé la moitié, je vais bientôt finir.
Ouais. Voilà. Donc, on verra à peu près dans un an, non?
Oui, il est prévu normalement pour sortir maintenant.
D'accord. Et donc, ça sera la fin de cette première. La première aventure.
Cette histoire-là sera bouclée.
Elle sera bouclée, 3 albums, donc ouais. Une belle aventure qui aura duré 3 ans.
Ouais, et puis après, si tout va bien, on fera un autre cycle et on pourra peut-être changer de planète.
Ouais.
Alors, en hiver. Parce que je ne vais pas faire de la glace pendant 10 albums.
Non, le prochain dans le soleil, non? Ou dans le désert? Une planète
très chaude. Le désert, peut-être pas, mais j'aimerais, là, pour l'instant, en tout cas, parce que les ambitions, on va en faire plus tard, mais là, pour l'instant, j'aimerais bien faire une planète très luxuriante.
Ah d'accord.
Avec beaucoup de fleurs, tu vois.
Un peu jungle, des trucs jungle, trucs comme ça. Sympa, parce que là, il y a plein de choses à dessiner, animaux.
Exactement,
ouais, ça puis au niveau des couleurs, il peut s'amuser.
Ouais, mais je
change
complètement.
Ouais.
En gros, là, je fais 3 albums bleus, et après, je fais 3 albums.
Comme vert, 3 verts, après 3 du rouge, on peut imaginer plein de choses. Pour terminer, j'aimerais que tu me parles un peu, parce qu'on parlait tout à l'heure et que tu me disais que. Il y a quand même des auteurs qui t'ont marqué, on parlait des enfants de Chris Foss par exemple, Pajram, Manchu et compagnie, et finalement on disait que toi t'es encore la génération d'après.
C'est que je connaissais évidemment les visuels de Chris Foss, mais je ne connaissais pas beaucoup d'auteurs, et donc là en arrivant et en regardant, je me suis aperçu qu'effectivement moi j'étais plutôt un enfant d'enfant de Chris Foss. Parce que finalement moi ce qui m'a influencé vraiment en ce moment-là, c'est tous ceux qui sont exposés. Hein. Spark, Benjamin Carré, Gréco, Pajram. C'est tout à fait mes influences. Quoi. Parce que moi, finalement, en âge, je suis de leur génération, quelque chose près. Mais en tant qu'auteur, je suis beaucoup plus jeune qu'eux. J'ai pas leur expérience. En fait. Je suis vraiment issu de ça. Et c'est assez intéressant de découvrir par ricochet en fait, quelles sont les influences, quelles sont les répercussions de l'œuvre de chacun sur d'autres artistes. Parce que finalement, en analysant, en voyant quel impact vraiment l'œuvre d'Abraham a pu avoir sur moi, ça me fait tout de suite comprendre plus facilement en fait, l'impact que Foss a pu avoir sur eux.
Ouais, ok, je comprends.
Hein. Par ricochet, je m'aperçois donc que l'impact que Foss a eu sur moi. Parce que finalement, évidemment, dans les couvertures de Foss, j'en ai vu plein. C'est juste que à l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait des mecs qui vivaient des illustrations de couverture de romans. Parce qu'à l'époque, j'étais plus glacial.
Alors là, donc, tu n'étais pas dans l'univers. Quoi. Ouais. Et tu reviendrais à Fulg Glacial si on te proposait de faire quelque chose? Faire du comique un peu?
J'ai toujours des idées. J'ai toujours ce personnage dont je parlais tout à l'heure. Je suis toujours. Donc, c'est pas impossible que je t'en prie, en tout cas.
Ouais, mais
je sais pas si je serais bon là-dedans, mais je vais essayer.
Mais sous forme de strip ou des choses comme ça, plutôt des choses plus resserrées, quoi.
Ah oui, là c'est le genre de truc, c'est plutôt sur du gag, d'une ou deux pages.
Ouais, qui a un travail complètement différent, quoi. Au niveau de la conception, de tout ça, c'est quand même...
C'est une récréation.
Ah oui, une récréation. Et tu le ferais tout seul, ça, finalement.
Ah si, un jour je fais un truc comme ça, je pense que je ferais seul. Ouais. En tout cas, si c'est avec ces personnages. Okay. Quand je dis seul, est-ce que même je m'adresserai à un éditeur, je sais pas, parce que... Bon, là, il faudra que j'arrive à négocier le truc.
Ouais, mais ça peut...
Droit, parce que là, c'est un personnage.
Parce que ça peut se développer sur des blogs ou des trucs comme ça, ce qui est relativement...
Ouais, le blog, c'est pas trop mon truc, mais...
C'est pas ton truc, quoi. On peut en parler.
Non, je suis trop mauvais du livre. Puis un blog, internet, ça, faut le nourrir régulièrement. Ouais. J'ai un travail à côté, j'ai des blogs.
Ouais, donc, une vie, quoi.
Ça demande trop d'investissement, c'est pas assez. Mais des envies de bande dessinée, de récits, de toute façon, j'ai des envies partout. Là, par exemple, en janvier, je sors un bouquin au co-scénario que j'ai co-écrit avec un ami qui est un autre pote dessinateur qui est chez un petit éditeur qui s'appelle Des Ronds dans l'eau. Et c'est aux antipodes de Sibéria, c'est une histoire de tragédie humaine dans le milieu SDF.
D'accord.
La tragédie d'un homme, quoi, donc ça n'a absolument rien à voir. En écriture, parce que j'ai des envies d'écriture aussi, mais en écriture, mes envies ne sont pas forcément... les mêmes envies que je peux avoir en tant que dessinateur.
Ouais, c'est des projets qui correspondent plus à tes préoccupations personnelles, quand même.
Ouais.
Voilà.
Des choses qui me touchent beaucoup plus
proches. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est une grosse tendance dans la bande dessinée de traiter des sujets.
Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas encore essayé de le faire réellement, parce que comme ça me touche, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un chemin à faire avant de lancer l'entraînement.
Ouais, je crois qu'il y a une démarche de voir. Ah ok, c'est bien.
Hein. Ouais. Pouvoir être je suis ébahi par le travail d'un étienne Davolo, par exemple.
Ah oui, je comprends. Ouais.
C'est génial quoi, de réussir à toucher autant de gens avec une histoire aussi simple en fait en soi.
Oui, ouais, c'est fort. Mais par contre, ses premiers albums ont été des échecs retentissants.
Oui.
Il a persévéré, il a trouvé sa voie. Ouais. Bon, bah Alexis, bah écoute, je te remercie de nous avoir un peu éclairé sur le travail d'un auteur de BD et de ce qu'il faisait. S'il y a des gens qui ont des questions.
Merci, au revoir.
Merci, on va aller faire autre chose, on va aller manger.
Bon appétit.
Je te le mets là ?
Ouais, je vais le mettre là. Bon, on va aller, c'est là.